les podcasts de Radio Vatican.
Mercredi 6 septembre, les ONG Trafic et WWF ont publié un rapport sur les marchés d'ivoire en Afrique centrale. Des enquêtes ont été menées entre 2007 et 2016 dans 5 pays, Cameroun, Gabon, RDC, Congo-Brazzaville et République centrafricaine. Faible gouvernance, corruption et évolution du commerce, ce sont les trois facteurs qui, selon Trafic et WWF, compromettent gravement la lutte contre le trafic d'ivoire. Pour pallier à cela, la RDC s'est récemment engagée à renforcer l'application de la loi contre le marché illégal d'ivoire. C'est une étape importante mais délicate puisque depuis 2007, le prix de l'ivoire a largement augmenté à cause d'une forte demande et d'une offre limitée. Stéphane Ringuet est responsable du programme Commerce des espèces sauvages au WWF France et co-auteur de ce rapport. Il nous explique les enjeux de cette situation.
Vous avez observé une explosion du prix de l'ivoire brut notamment depuis 2007. Rien que pour la République démocratique du Congo, si vous prenez de l'ivoire, on a pris deux cas, hein, de l'ivoire qui est inférieur à 5 kilos, vous c'était à l'époque à peu près du $30 le kilo en 99, aujourd'hui c'est plus de $400. Donc on a eu une explosion, si vous voulez, des prix qui peut s'expliquer d'une part par une forte demande, notamment dans les marchés asiatiques, et puis aussi une offre limitée, mais un changement de la dynamique du commerce qui était des marchés ouverts domestiques jusqu'à présent, qui n'existe plus, c'est ce que montre clairement le rapport, quasiment plus, sauf à Kinshasa, et on est passé maintenant à des relations de commerce qui sont strictement, bien sûr, souterraines, et qui concernent d'autres acteurs qui sont opérationnels en Afrique et ayant des connexions en Asie pour écouler de l'ivoire.
La RDC s'est récemment engagée à renforcer l'application de la loi contre le marché illégal de l'ivoire à Kinshasa. Et donc Trafic et WWF soutiennent cette prise de position. Mais que compte faire concrètement la RDC ?
Déjà, la RDC, c'est un énorme pays. Une dizaine de pays limitrophes, déjà faire appliquer la loi dans un pays comme ça, c'est plus que problématique. Il n'y a quasiment plus d'éléphants. La République démocratique du Congo a été pointée du doigt depuis très longtemps par la communauté internationale parce qu'elle ne faisait pas grand-chose, notamment pour protéger ses éléphants. Il a été demandé à plusieurs pays d'Afrique centrale, notamment et en particulier à la RDC, de mettre en place ce qu'on appelle un plan d'action national ivoire, qui vise à prendre un ensemble de dispositions visant notamment à renforcer l'application de la loi, à faire de meilleurs renseignements, à faire des saisies, des poursuites réelles, à se renforcer sur la sensibilisation, à fermer son marché d'ivoire à Kinshasa. Bref, un ensemble de dispositions claires. Le WWF et Trafic ont organisé notamment à travers un programme de renforcement des capacités dans la sous-région un atelier qui est intégré notamment les responsables de la RDC pour développer ce plan d'action. Et aujourd'hui, on est dans la phase de mise en œuvre de ce plan d'action. Ça se traduit par quoi ? Au-delà de la formation ou du renforcement de capacité des agents de contrôle, des procureurs, des gens qui travaillent dans le monde de la justice, etc. C'est aussi soutenir des opérations qui visent à éradiquer les marchés non réglementés à Kinshasa, vendant notamment de l'ivoire. On est intervenu pas si longtemps que ça, c'était en avril-mai dernier, avec les autorités pour justement travailler sur ces questions d'éradication de marchés illégaux non réglementés à Kinshasa. Donc oui, on soutient fortement les autorités pour qu'elles travaillent dans ce sens-là. Ça, c'est une chose. Et on a un bureau là-bas, hein. on a un programme dont un des cœurs d'action vise justement à traiter ce type de questions.
Et il y a quelques jours, en Afrique du Sud, un braconnier mozambicain a été condamné à 20 ans de prison pour trafic illégal de cornes de rhinocéros. L'Afrique du Sud abrite 80% de la population de rhinocéros, mais elle est victime d'un braconnage qui aurait augmenté ces dernières années. Est-ce que ce genre de condamnation peut servir d'exemple et effrayer les braconniers?
Il est clair que là, vous parlez uniquement des sanctions. C'est un volet important à considérer. Effectivement, si vous avez des sanctions dissuasives, ça peut effectivement être un facteur à considérer par rapport à des réseaux ou par rapport à des trafiquants. Mais il faut avoir une vision plus globale qui porte d'une part sur, effectivement, je prends un risque important parce qu'effectivement, il va y avoir des enquêtes, il va y avoir des poursuites, il va y avoir une véritable mécanique derrière si je fais quelque chose de mal, en gros. Donc ça, c'est, et qui aboutit ensuite à des sanctions significatives. Mais c'est aussi le profit. Si le profit dégagé par votre activité criminelle vaut la chandelle, vous allez quand même continuer votre activité. Donc il est extrêmement important de travailler sur la demande. Donc s'assurer effectivement que les produits peuvent être écoulés de façon plus difficile parce que la demande a changé, parce que la demande est moins importante, etc. Ce qui fait que l'approche que l'on doit développer et que l'on développe, c'est celle de travailler à la fois sur les questions de lutte anti-braconnage sensu stricto, si vous voulez, travailler sur la lutte contre les réseaux criminels transfrontaliers, et puis ensuite travailler sur la demande. réduire significativement la demande en changeant notamment les comportements, etc., etc. Donc, il faut jouer sur les trois piliers. Sinon, au-delà de la mobilisation politique nécessaire pour mettre en œuvre ce type d'action, sinon, si on ne travaille que sur l'aspect sanction, on risque d'une part, hein, question que je peux vous dire, mais on sanctionne qui dans le réseau? Vous allez sanctionner le larbin, c'est possible, la personne qui s'est fait attraper, mais vous n'allez pas forcément toucher la tête ou l'ensemble du réseau.
Soné Nkoké, membre de l'ONG Trafic en Afrique centrale et co-auteur de ce rapport, pointe également le risque écologique de cette situation. Quel est votre avis à ce sujet?
Ce qu'on constate, c'est plutôt un épuisement global, si vous voulez, de nombreuses populations d'espèces sauvages, protégées ou pas, menacées ou pas, encore une fois. Et c'est ça, un des drames écologiques qui se posent, mais qui ne se regarde pas uniquement à travers le prisme de la consommation ou du commerce illégal associé à cela, mais aussi au travers le prisme de la déforestation. Il ne faut jamais oublier que les espèces vivent d'abord dans des habitats et que si ces habitats sont menacés, fragmentés, elles vont partir en premier de ça. Mais il est clair que sur ces espèces un peu emblématiques, le braconnage, hélas, est une des menaces les plus urgentes à traiter. La question d'abord de l'habitat, c'est un vrai sujet. Les zones urbaines se développent, il y a des besoins de consommation réels, notamment au niveau de la faune sauvage qui s'organise avec des liens commerciaux importants, avec des buts lucratifs, et ça pèse fortement sur la faune sauvage. Ça, c'est une réalité. La fragmentation du milieu, le développement urbain, l'exploitation forestière, l'extraction minière, toutes ces activités doivent être intégrées dans un plan d'aménagement cohérent pour s'assurer que ces grands paysages sauvages permettent effectivement le maintien de populations viables, donc dans la durée de grandes espèces notamment, mais pas que, comme les éléphants qui sont, il ne faut pas l'oublier, des espèces migratrices, hein, qui ont besoin de points d'eau, qui peuvent faire parcourir de longues distances. Et le fait aujourd'hui qu'on ne traite pas peut-être cette question à haut niveau politique amène d'autres problèmes, c'est que ces espèces-là, à un moment donné, peuvent empiéter sur des cultures, empiéter sur des villages et entraîner des conflits. Des conflits avec des populations locales qui font qu'après coup, on doit traiter ces problèmes-là. Donc on comprend bien que la catastrophe, elle va se dessiner de plus en plus au fur et à mesure qu'il y aura une pression sur ces milieux et qu'on n'arrivera pas à anticiper les pressions telles qu'elles vont se dessiner. Donc on parle aujourd'hui du braconnage, du commerce illégal de l'ivoire à travers l'éléphant. C'est un aspect que l'on met en lumière parce qu'effectivement, c'est une des principales menaces sur l'éléphant d'Afrique centrale aujourd'hui. Mais il ne faut jamais oublier que la question de l'habitat est aussi une question importante par rapport à ces espèces-là.